Georges Bernanos, Un crime, première partie, chapitre 3, suite et fin. Madame Louise avait recouvert le cadavre d'un voile de gaze, mais le sourire de la vieille dame n'en paraissait que plus ironique. Sa bouche sans dents, effondrée par la contraction musculaire, ne faisait entre la pointe du nez et celle du menton qu'une poche d'ombre encore approfondie par la double et funèbre saillie des pommettes, dont l'eau se semblait prête à percer la peau. Les vains efforts de la gouvernante pour effacer avec son mouchoir la couche épaisse de fard n'avaient réussi qu'à l'étaler jusqu'aux tempes, donnant à ce visage de petite bourgeoise un air de mascarade funèbre. « La victime possédait-elle un revolver ? » demanda tout à coup le procureur. À cette question, le juge, qui feignait d'examiner attentivement la fenêtre, se retourna brusquement. « Oui, monsieur, » dit l'ancienne religieuse. Elle alla droit vers le secrétaire, ouvrit un tiroir, et de la même voix indifférente, « Il était là d'ordinaire. » « Il était là, » répéta le procureur. « Il n'y est plus. » « Bon. La victime... » Mais la réponse vint avant qu'il eût achevé sa phrase. « Madame Beauchamp n'y attachait aucune importance, monsieur le procureur. Elle n'était pas craintive. Nous n'avions d'ailleurs aucune raison de craindre qui que ce fût. La maison nous a toujours paru un peu isolée, voilà tout. » « Votre maîtresse, le cas échéant, eût-elle été capable de se défendre, de se servir d'une arme à feu ?»« Certainement. C'était la femme d'un militaire, elle avait beaucoup voyagé, parfois même dans des contrées peu sûres, au Chili, au Brésil. » « A-t-elle tiré cette nuit ?»« Non. » « Pourquoi ?»« Parce que je l'aurais entendu. Je dors très peu. » « En somme, vous assuriez vous seul la surveillance et la protection de cette maison ?»« Oui, monsieur. Madame Beauchamp menait dans ces derniers temps une vie très... très distraite. Elle ne recevait plus personne depuis des mois. Elle ne s'occupait jamais de rien. Ce que je faisais était bien fait. » Alors vous auriez dû savoir que votre petite bonne avait un amoureux qui lui donnait rendez-vous chaque jour dans le parc, à la Brune. Il s'y trouvait encore hier soir, mes renseignements sont formels. Eh bien, vous saviez ça ? Oui, monsieur. Il s'agit du fils Rouard, un bon garçon. Madame s'intéressait à l'établissement de Philomène, et je crois qu'elle lui eut fourni une petite dot. Elle s'arrêta perfidement une seconde, juste assez longtemps pour que le juge dressât l'oreille, et continua d'une voix qui détachait chaque syllabe. « Nous avons recueilli cet enfant après son passage à Grenoble. Elle y avait souffert, au physique et au moral. Le café où elle servait n'était pas, m'a-t-on dit, des plus sûrs, ni des mieux famés. » Elle se tut, baissa les yeux. La face du procureur s'empourpra. « Bien, dit-il, j'ai simplement noté les coïncidences. Un homme a été blessé d'un coup de feu. Un revolver qu'on cherche à sa place habituelle ne s'y trouve plus. La bonne a un amant auquel la maison est familière. Or, les circonstances du crime semblent prouver que son auteur, s'il ne connaissait les êtres, devait avoir été très exactement renseigné. Par qui ? Le feu qui avait rougi ses joues s'apaisait peu à peu, et il allait de long en large à travers la chambre. « Je m'étonne, dit-il, que vous n'ayez pas encore eu la curiosité d'aller voir. » J'attendais qu'on m'en priât. Monsieur le procureur jugera sans doute que j'ai rempli déjà ce matin, de mon mieux, des devoirs assez pénibles. Les forces d'une vieille femme ont des limites, monsieur. Et d'ailleurs, il est peu probable que mon témoignage vous soit utile. Si le moribond m'était connu, il le serait aussi des gens de mégère, car madame ne recevait qu'un très petit nombre d'amis, tous au-dessus du soupçon. Nos fournisseurs sont ceux du village, et encore montent-ils rarement au château. Je fais les courses nécessaires chaque matin après la messe, soit avec Philomène, soit seule. Mais je vous accompagnerai là-bas volontiers s'il le faut. » Les premiers témoins avaient repris leur place autour de la table. Le juge fit au greffier signe de le suivre et s'écartant de quelques pas. « L'enquête est conduite en dépit du bon sens, fit-il. Jamais vu conduire une enquête comme ça. » Le médecin de Mégère les précédait. Ils le rejoignirent. « J'ai donné des ordres au brancardier. Nous allons le descendre à la mairie provisoirement, dit le docteur. Nous verrons plus tard. » En somme, l'état ne semble pas s'être beaucoup aggravé jusqu'ici. Le cœur se défend mieux. Je viens de téléphoner à mon confrère de Gèvres. Peut-être réussirons-nous à débarrasser la trachée des caillots qui l'encombrent, du moins je le suppose. Car la blessure du poumon n'explique pas les crises aiguës de suffocation que j'observe depuis une heure à peine. Il y a là quelque chose de bizarre. Le docteur s'accroupit, soulevant la tête du moribond, qu'il posa entre ses genoux. La gouvernante, serrant son mouchoir sur sa bouche, s'arrêta devant l'inconnu sans d'abord oser lever les yeux. Puis, elle le regarda en silence et poussa un long soupir. « Je ne le connais pas, dit-elle. Je ne l'ai jamais vu. » « Drôlement vêtu, remarqua le procureur. Drôlement vêtu pour un voyage en montagne. Bigre, une chemise, une vieille culotte, pas de chaussures. Comment expliquez-vous ça, monsieur le juge d'instruction ?»«
J'ajoute que la chemise est en flanelle et d'excellente qualité, fit le médecin de Mégère. L'individu portait, en outre, une amulette, une plaque d'identité ou quelque chose d'approchant. La trace en est visible à la base du cou. Je le prendrais volontiers pour un Italien. Il a paru d'ailleurs prononcer quelques mots dans cette langue. »
« Italien ou pas italien, le costume n'est pas ordinaire. Notez aussi que les mains sont sales, mais sans déchirure ni cale. Déguisé en vagabond, hein, Fraîcheville ?»
Ils étaient groupés face au mourant, dont le léger râle, entendu par instant, ressemblait au bourdonnement d'une abeille. Du haut de la pente, la voix du grand Hurtebise s'éleva.
« Monsieur le docteur, l'ambulance vient d'arriver. Ils apportent le brancard. »
Déguisement, peu. Il parlait avec embarras. Et plutôt de l'air d'un homme qui, soucieux seulement d'esquiver une objection embarrassante, garde secrète sa propre opinion. N'oubliez pas qu'une première enquête a relevé les traces d'une assez longue station du meurtrier au fond du placard. J'en puis conclure qu'il a dû circuler à travers la maison avant de trouver sa cachette. Admettons même qu'il s'y soit rendu directement. On ne traverse pas une maison, même habitée par deux vieilles femmes et une enfant, même vaste et partiellement abandonnée comme celle-ci, en paletot de fourrure avec des souliers ferrés. Pour expliquer la présence ici de l'assassin dans ce costume, il suffit d'imaginer qu'il a été surpris, ou cru l'être, qu'il s'est enfui avant d'avoir pu remettre la main sur le paquet de vêtements probablement dissimulé dans quelque coin du château ou de ce jardin.
« Très bien, parfait, » conclut le procureur. « La raison de la fuite précipitée se devine. Le coup de feu a été tiré par la vieille dame, et l'assassin ne songeait plus qu'à disparaître au plus vite avec une balle dans la peau. Reste, mon cher Fraîcheville, que nous n'avons pas encore mis la main sur ce fameux revolver. »
« Permettez, commença le docteur, qui s'affairait autour du brancard et des porteurs, mais un geste impérieux du petit juge lui coupa la parole, et il termina sa phrase par un bredouillement confus. Les infirmiers avaient déjà glissé la toile sous le corps inerte. Une dernière fois, le médecin de Mégère approcha le visage de la face obscure, aux paupières closes. « Tiens, fit-il. » Des doigts, il ouvrait la bouche du moribond, et les deux magistrats virent qu'elle était pleine de terre. Entre le pouce et l'index, le docteur élevait à la hauteur de ses yeux un caillou de la grosseur du pouce, souillé d'une bave sanglante. Les yeux du juge jetèrent un éclair, vite éteint. « Que signifie ? » demanda le procureur.
« Oh, peu de choses, répliqua le docteur, après un regard échangé avec le petit homme. Sans doute s'est-il débattu à un moment la face contre le sol. Voyez comme il respire mieux maintenant. »
Ils remontèrent tous ensemble derrière le brancard, laissant la gouvernante gagner la maison par un autre chemin. « Monsieur le procureur, dit le juge, je vous demande la permission d'accompagner le blessé jusqu'au village. Il serait utile de nous mettre en communication téléphonique avec la gendarmerie de Grenoble, qui doit avoir terminé les premières vérifications. » Il feignit d'interpréter comme un congé le regard surpris, vaguement soupçonneux de son chef, et sitôt qu'il eut rejoint le docteur, il appuya sur son bras une main tremblante dont l'autre sentit la chaleur à travers sa manche.
« Le procureur rentrera tout à l'heure à Grenoble, fit-il. C'est moi qui orienterai l'enquête. Pas dommage. Le vieux n'est pas si bête qu'il en a l'air, mais il n'a sûrement pas encore, si bon matin, son compte de morphine. Pauvre diable. Je l'ai connu assez brillant, jadis à Narbonne, avant la mort de sa femme. La petite bonne l'a mis proprement dans sa poche, hein? Il l'a connu chez Madame Estève. Et le pis, c'est que l'ancienne religieuse le sait. Un magistrat saisi par la débauche, docteur, ne devrait exercer qu'à Paris. Il attendait une réponse qui ne vint pas et reprit avec une gaieté forcée. Le juge d'instruction doit se méfier de tous,
et d'abord de son procureur. Voilà pourquoi je me suis permis. Et maintenant, une simple question. La blessure a-t-elle causé une hémorragie immédiate? Certainement. Abondante? Probable. Bon, dit le petit homme avec un soulagement visible. Or, nous n'avons relevé dans la maison ni dans le parc aucune trace de sang. Le type a reçu son compte juste à l'endroit où il est tombé. Complice?
Chut! Fit le juge, un doigt sur la bouche.
Mais ses yeux interrogeaient encore avec inquiétude le visage souriant du médecin de Mégère qui, d'un air indifférent, laissa tomber tout à coup ces paroles surprenantes. « Je commence à croire que je sauverai mon bonhomme. Je le souhaite, ne serait-ce que pour apprendre le nom du petit camarade qui lui a fourré ce caillou dans la gorge. Hein, cher ami ? »